L'invité du grand entretien ce matin, celle que nous accueillons avec Alexandra Ben Saïd, des députés PS du Tarn-et-Garonne, présidente du groupe Nouvelle Donne à l'Assemblée nationale, poste stratégique pour porter la parole des socialistes, première femme à occuper ce poste sous la Ve République, en plein débat budgétaire et alors que les parlementaires examinent le financement de la Sécu, qu'en pense celle qui était rapporteure générale du budget? Vos questions, chers auditeurs, dans une dizaine de minutes au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter. Bonjour Valérie Rabault.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin. C'est un sondage de l'IFOP qu'a publié hier le journal du dimanche et qui ne vous a pas échappé. Sondage analysé surtout pour le rapport de l'opinion française à la laïcité, à l'islam, mais où l'on découvre que la première préoccupation des Français est de loin, de très loin, c'est la santé. 82% des Français estiment que la santé est le thème prioritaire pour les mois qui viennent, la santé qui est devant la lutte contre le chômage, devant la question du pouvoir d'achat. Est-ce que ça vous surprend ?
Non. Ce qui me surprend par contre, c'est que ça ne fasse pas la une des journaux. Donc je vous remercie d'en parler ce matin. Juste une petite précision, le groupe socialiste à l'Assemblée nationale s'appelle
bien Socialiste.
Non, c'est terminé tout ça depuis un an, il a retrouvé son nom socialiste et apparenté. Donc je me permettais de le préciser. Donc oui, la santé, pourquoi ? Parce que un Français sur quatre a depuis un an et demi été concerné par des pénuries de médicaments. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même très important dans le quotidien. Les Français peinent à obtenir des rendez-vous chez leur médecin. Ils peinent aussi lorsqu'ils vont aux urgences, ils voient bien, lorsqu'ils sont contraints d'y aller, ils doivent attendre 6-7 heures avant d'être pris en charge. Donc ça, c'est la vraie vie. C'est pour ça que la santé ressort comme la priorité numéro un, et c'est bien normal. Moi, ça ne m'étonne pas. Ce qui m'étonne, c'est que ça ne fasse pas la une, notamment du journal que vous citiez, auquel vous faisiez référence et qui a été publié hier.
Ça fait la une du grand entretien ce
Exactement,
matin sur France
merci
Inter.
À vous.
Et il y a un mouvement de protestation dans les hôpitaux publics qui prend de l'ampleur au fur et à mesure qu'on se rapproche de la manifestation du 14 novembre, qui doit rassembler tous les personnels. Ça serait nouveau. Est-ce que vous le soutenez, ce mouvement ?
Nous soutenons les revendications des services d'urgence. Il y a 200 services d'urgence en grève depuis le mois de juin. Ça ne s'est jamais produit dans notre pays. Jamais. Donc il faut quand même l'entendre. Nous soutenons bien sûr les revendications qui consistent à dire, ce qu'a dit aussi la Cour des comptes, il faut 20%. C'est la Cour des comptes qui l'a écrit. C'est même pas nous qui le disons. C'est la Cour des comptes qui a écrit, il faut 20% de personnel soignant en plus dans les services d'urgence. Je veux dire, jamais la Cour des comptes n'écrit un truc pareil. Jamais. Elle dit toujours, il faut baisser les dépenses.
Oui.
Pour la première fois, elle dit, il faut soutenir, il faut augmenter de 20%. Donc ça doit être entendu. Et ce que nous constatons en ce moment en débat du budget de la Sécurité sociale à l'Assemblée nationale, est-ce que vous croyez qu'il y a des propositions qui ont été faites par la ministre ?
Il y a une plan d'urgence ?
À rien.
Il y a eu un plan urgence ?
Le plan urgence qu'elle a annoncé n'est même pas budgétisé dans le budget pour 2020 de la Sécurité sociale.
Expliquez-nous ça justement, parce
que
Agnès Buzyn, elle dit que les dépenses de santé sont en hausse et qu'il y a des mesures spécifiques qui ont été décidées pour les urgences. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles ne sont pas budgétisées ?
Quand on
Valérie
lui pose
Rabault
la question et qu'on lui dit « Où peut-on trouver dans le budget les 200 millions qu'elle a annoncés ?» il n'y a pas de réponse. Donc ça veut dire que si on ne les trouve pas, ils n'y sont pas. Le groupe socialiste a proposé, rien que pour cette année 2019, de flécher 300 millions d'euros tout de suite. Tout de suite. Que croyez-vous qu'a été la réponse de la ministre ? La réponse a été non. Non. Nous avons proposé mardi dernier un plan hôpital en disant il faut évidemment les ressources, il faut pouvoir les trouver. On a dit, on recule de 2 ans le remboursement de la dette sociale. Contrairement à la dette de l'État, la dette sociale, on la rembourse chaque année. On le recule de 2 ans. Ça fait 5 à 6 milliards d'euros qui peuvent être dégagés pour financer des places à l'hôpital, pour financer des places dans les EHPAD. Que croyez-vous que la ministre a répondu ? Elle a répondu non et elle a dit, je ferai une proposition au mois de novembre, une fois que le budget de la Sécurité sociale se sera voté.
Pourtant,
mais on marche sur la tête. Là, il y a une urgence. On est en train de débattre du budget de la Sécurité sociale. Ça doit être fait maintenant. Et dernier point, j'insiste.
Oui.
Combien croyez-vous qu'elle demande d'économie à l'hôpital cette année ? Parce que ça, c'est une toute petite ligne dans le budget. 4,2 milliards d'euros. L'an dernier, elle avait déjà demandé 3,8 milliards d'euros. C'est en augmentation les économies qui
Valérie
sont
Valérie Rabault, lorsqu'Agnès Buzyn, elle dit « Mais non, les dépenses de santé, elles sont prévues à la hausse dans ce budget de la Sécurité sociale. » Est-ce que c'est en contradiction ? Est-ce que c'est faux ?
C'est à la fois vrai et faux. C'est à la hausse, mais cette hausse est inférieure à l'inflation. est inférieur à la dynamique de notre création de richesse. Ça veut dire, très concrètement, sujet vers complément, que la création de richesse de notre pays ne profite pas ni à l'hôpital, ni à la santé. C'est ça que ça veut dire.
Il y a aussi la question du budget. La partie recette du budget a été votée par les députés. J'aimerais que vous fassiez un petit travail de pédagogie parce que c'est très compliqué à comprendre lorsqu'on n'est pas spécialiste des chiffres, des maths et des comptes publics comme vous l'êtes. Combien le budget de l'État? Qu'est-ce que ça représente?
Alors, si vous voulez retenir un ordre de grandeur, les dépenses publiques, 1200 milliards d'euros. Là-dessus, il y en a 600 pour les administrations de sécurité sociale, 400 pour l'État, 200 pour les collectivités locales. Et sur les 600 des administrations de sécurité sociale, vous en avez la moitié pour les retraites.
On commence aujourd'hui à mesurer l'impact des mesures fiscales et sociales du gouvernement. L'IPP qui évalue chaque année, cet institut des politiques publiques, il évalue chaque année l'impact du budget de la nation sur le ménage, publiait récemment son dernier rapport et il tirait cette conclusion que Emmanuel Macron était aussi peut-être le président des classes moyennes. Il est le président des riches, puisque ce sont toujours le 0,1% des Français les plus riches qui profitent le plus de ces mesures sociales et fiscales. Malgré tout, les classes moyennes, les 50% du cœur de la population française, bénéficient aussi de ces politiques. Il faut donc corriger ce slogan qui colle au président de la République depuis le début de son quinquennat.
Moi, j'ai pas envie de corriger le slogan, mais je reconnais qu'avec les baisses d'impôts votés pour 2020, donc ils ne sont pas du tout encore entrés en vigueur, il y aura un geste pour les classes moyennes. En revanche, pour les 22 millions de Français, 22 millions de foyers qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, il n'y aura pas un euro de pouvoir d'achat en plus. Et ça va induire des fractures territoriales, puisque vous avez dans certains départements, comme le mien en Tarn-et-Garonne, 60% des habitants qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, qui eux ne vont pas avoir un seul euro de pouvoir d'achat en plus. 22 millions ne vont pas avoir un seul euro de pouvoir d'achat en plus. C'est la même chose pour les 5 millions de Français qui aujourd'hui ont moins de 900 euros par mois quand vous êtes célibataire, qui ne payent pas la taxe d'habitation, qui eux ne vont pas avoir un euro de pouvoir d'achat en plus. Tout simplement parce que, comme ils ne payaient pas la taxe d'habitation, ils ne vont pas être remboursés de la taxe d'habitation. Mais pour eux, ce n'est pas un euro de pouvoir d'achat en plus. Donc vous avez quand même une frange très importante dans notre pays, 22 millions, c'est vraiment énorme, qui ne va pas bénéficier de ces mesures. Quand l'INSEE, l'Institut des statistiques, vous dit « en 2018, la pauvreté, le nombre de pauvres a augmenté dans notre pays », je pense que ça devrait alerter le gouvernement. Eh bien, il n'y a aucune réponse vis-à-vis de ce constat dans le budget 2020.
Valérie Rabault, on est presque à la moitié du quinquennat. Quand on regarde, si on regarde juste les chiffres, alors, on a une croissance française qui résiste, par rapport à ses voisins. On a quand même un chômage qui continue de baisser. Le gouvernement, lui, il conclut que sa politique économique, elle marche, et il dit que ce sont des faits. Qu'en pensez-vous?
Je dis que la baisse du chômage, c'est le résultat d'une croissance économique qui a été engrangée dans les 1 an ou 2 ans avant. Donc, c'est la croissance de 2017. En 2017, on avait 2,4% de croissance, c'est-à-dire que la richesse augmentait chaque année de 2,4%.
Autrement dit, merci François Hollande.
Oui, merci François Hollande. Aujourd'hui, la croissance, elle est à 1,3%. Elle a chuté, donc ça fait grosso modo...
Quand l'Allemagne était à 0,5%.
Oui, mais... Et l'Allemagne a fait reposer toute sa machine économique sur les ventes de voitures, les exportations de voitures. Quand cette machine économique est un peu fragilisée, forcément ça se ressent dans ces chiffres. Mais la France, ce qu'il fallait qu'elle continue à faire, c'était de soutenir cette activité économique. Nous, on avait proposé 2 contre-budget, en disant il faut soutenir cette activité économique parce que ça permettra à la fois d'avoir de la redistribution et puis aussi de créer de l'activité dans notre pays. Le gouvernement n'a pas du tout écouté ça, il a décidé de partir sur un autre schéma, et dans la façon dont il soutient les entreprises mais pas soutenir avec des mesures fiscales, soutenir avec de l'investissement, avec de la vraie création de valeur, là il n'y a plus rien du tout.
Question quasiment de philosophie politique, c'est ce que propose l'économiste Éloi Laurent, que vous connaissez, il publie « Sortir de la croissance » et il dit cet économiste qu'il faut abandonner la croissance, non seulement comme indicateur, arrêter d'avoir l'obsession du produit intérieur brut, mais abandonner même la croissance comme objectif politique, parce qu'elle ne permet pas, cette croissance, d'affronter les enjeux majeurs de notre temps, le bien-être social, la lutte contre les inégalités, l'écologie. Comment est-ce que vous recevez discours?
Non, je suis pas d'accord. Moi, je pense que on a une capacité d'intelligence, de faire du progrès. Et le progrès crée de la valeur. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire appauvrir notre planète. Quand on est capable, vous savez, tout le monde parle des 7 millions de logements qui sont des passoires. Si vous en rénovez, vous diminuez de 500 euros en moyenne par an la facture énergétique des personnes qui vivent dedans. Vous créez de l'activité pour le bâtiment et vous réduisez les émissions de CO2. Ça, ça fait partie de la croissance. Mais ça, tout le monde parle des 7 millions de passoires énergétiques et il n'y a rien qui est enclenché pour faire en sorte qu'on diminue ce nombre de passoires énergétiques. Ça, c'est de la croissance. Donc cette croissance-là, elle me convient parfaitement. Elle remplit un triple objectif. C'est pour ça que je ne suis pas totalement d'accord avec l'économiste.
Éloi Laurent.
Valérie Rabault. À présent, je voudrais vous emmener sur le terrain toujours de la politique économique, mais des réformes. On aura vendredi l'entrée en vigueur des premières mesures de la réforme de l'assurance chômage. Un syndicat, la CFDT, a écrit à tous les parlementaires, vous nous direz si vous avez reçu la lettre, et la CFDT qui veut alerter sur les conséquences terribles de la réforme pour les demandeurs d'emploi. Terrible, c'est leur adjectif, est-ce qu'il vous convient?
Oui, mais moi j'ai déjà reçu, notamment Pôle emploi a commencé d'ores et déjà à écrire un certain nombre de personnes au chômage, donc certaines de ces personnes m'ont montré les lettres qu'elles avaient reçues. Effectivement, ça va être des conséquences qui sont extrêmement défavorables et qui vont avoir à la fois un impact sur la vie, sur les prestations que vont percevoir les personnes au chômage. Et puis je crois aussi que ça va être un coup de massue parce qu'il y a le nombre est extrêmement important.
Parmi les séries des réformes à venir, il y a celle des retraites et le président de la République assurait à l'antenne de nos concurrents et amis d'RTL qu'il n'aura aucune forme de faiblesse ou de complaisance, je le cite, face aux mobilisations contre sa réforme, même si cette dernière devait le rendre impopulaire. Je cite toujours Emmanuel Macron, « Je veux aller au bout de cette réforme, je pense qu'elle est nécessaire pour le pays, donc je la défendrai. Les gens diront « c'est insupportable, tout ça pour ça, mais je ferai tout pour qu'il n'y ait pas des blocages, je n'aurai aucune forme de faiblesse ou de complaisance, donc ces mots-là, comment les recevez-vous ?»
Il avait dit la même chose pour le mouvement des Gilets jaunes. Et puis il a reculé au mois de décembre, en faisant un chèque de 10 milliards d'euros. Je pense que, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième, c'est de dire, quand on veut aborder une négociation dans ces termes, je pense que c'est pas la meilleure façon de le faire. De dire, voilà, il dit qu'il souhaite réformer, très bien, les retraites, le régime des retraites. Mais si il n'engage pas une négociation, ce qu'il a fait pour la SNCF en disant, sur la forme de la SNCF, je passe par ordonnance, et bon, on voit bien qu'aujourd'hui, ça va se bloquer. Je pense que sa réforme est mal enclenchée.
Vous croyez à l'agrégation des colères? C'est-à-dire, là, vous parliez des personnes les plus pauvres qui n'auront pas ces mesures pouvoir d'achat. Il y a la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites qui inquiète. Est-ce que vous croyez, par exemple, qu'une journée comme le 5 décembre, ça peut peser?
Oui. Oui, d'ailleurs celle du 13 septembre avec la grève à la RATP a été très 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 suivie hein. Et je pense que celle du 5 décembre peut être très suivie aussi.
Finalement ce gouvernement, le modèle social, il est en train de le changer en profondeur. Durant la campagne on a entendu que c'était pour l'adapter au 21e siècle.
Oui mais on ne sait pas où ils veulent aller. La seule chose que nous voyons aujourd'hui c'est qu'ils le détricotent. Mais pas pour dire vers quel point d'arrivée ils veulent aller. Que ce soit sur la réforme du marché du travail, que ce soit sur les retraites, que ce soit aussi sur le modèle de financement de la sécurité sociale. Tout à l'heure, on parlait du budget de la Sécu.
Oui.
Supposons que votre employeur vous dise « je vous augmente » et puis qu'il dise « je vais aller diminuer le salaire de Madame Ben Saïd ». C'est exactement ce que fait l'État aujourd'hui. Il baisse les cotisations de la sécurité sociale. Jusqu'à présent, l'État remboursait toujours à la sécurité sociale, compensait. Cette année, c'est terminé. Donc au 1er janvier 2020, il manquera 3,5 milliards d'euros dans les caisses de la Sécurité sociale. Ça aussi, c'est du jamais vu. Et la première qui avait fait en sorte que ça ne se passe pas comme ça, c'était Simone Veil, en juillet 1994, en faisant une loi en disant « quand l'État décide de baisser les ressources de la Sécurité sociale, il compense ». C'est un principe très sain, très clair et qui donne de la lisibilité et surtout une forme de sincérité au compte public.
Intéressant Valérie Rabault de vous entendre critiquer les réformes du quinquennat Macron. Vous le faites chiffre à l'appui, vous êtes une spécialiste des questions budgétaires. Malgré tout, on se demande aujourd'hui quel projet alternatif peut porter le Parti Socialiste. Quand on entendait le Premier Secrétaire Olivier Faure hier dire que nous sommes discrédités, je le cite, nous sommes discrédités. C'est vrai, la confiance a complètement disparu envers les socialistes. Qu'est-ce que ça veut encore dire aujourd'hui qu'être socialiste en France? Et quel projet portez-vous?
On porte plusieurs. Alors, j'entends parfaitement le discrédit. Et si on n'avait pas fait 2 fois 6% en 2017 et 2019, effectivement, on est obligé de le regarder en face. Cela dit, je me permets de rappeler que quand on fait deux contre-budgets, On a été les premiers à alerter sur la hausse délirante des taxes énergétiques du gouvernement. On a mis un simulateur en ligne qui s'appelait lessocialistes.fr/simulateur. Chacun pouvait tester l'impact sur son pouvoir d'achat. Enfin, en fonction de sa consommation, s'il utilise du chauffage au fioul ou à l'électricité, enfin tout le monde peut le faire. Ça, c'était très clair. On a alerté. On a fait des contre-projets de financement à chaque fois. À chaque fois. Le gouvernement a tout balayé. Là, aujourd'hui, à mon avis, il y a trois grands sujets qui doivent intervenir. C'est de dire il faut une volonté de réforme. La transition énergétique, ça ne peut pas être juste un slogan. Ça ne peut pas être juste un slogan anxiogène.
Mais ça, vous n'êtes pas les seuls à le dire.
Ben, on n'est pas les seuls à le dire, mais pour l'instant, on est les seuls à avoir mis des projets sur la table. Alors qu'ils ne sont peut-être pas entendus parce qu'on n'est peut-être pas assez audibles, mais on est les seuls à avoir fait un plan de financement, notamment sur les passoires énergétiques. Vous comprenez bien que si vous avez un ménage qui récupère 500 euros de pouvoir d'achat parce que sa facture d'énergie baisse, ça, ce sera du concret dans sa vie quotidienne. Donc ça, on a fait un plan de financement extrêmement précis. Deuxième sujet sur la question du pouvoir d'achat et aussi de la fiscalité. Moi, je plaide pour un reste à vivre. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez la fiscalité ou des charges fixes qui arrivent sur les ménages qui sont incompressibles et le reste à vivre de ces ménages est extrêmement faible. Donc je pense qu'il faut que ceci soit mesuré et qu'on puisse l'utiliser comme un outil pour la fiscalité. Ça, c'est le deuxième volet. Et le troisième volet qui porte évidemment sur la sécurité sociale et sur l'hôpital. Si on ne fait rien, on va à la catastrophe. Et là-dessus, on a mis un plan la semaine dernière, mardi dernier, financé. On ne dit pas on fait ça gratos, c'est pas vrai, parce que tout coûte de l'argent. Financé, qui porte sur l'hôpital, qui porte sur les EHPAD. Donc là-dessus, vous avez trois volets extrêmement concrets qui ont été portés par les deux groupes socialistes à l'Assemblée et au Sénat.
Avant les questions des auditeurs, malgré tout, cette question, qu'est-ce qu'être socialiste aujourd'hui, Valérie Rabault, vous n'y avez pas répondu. Vous
c'est vrai, j'ai pas répondu.
Trois mesures exactement. Importantes, mais qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement?
Ça veut dire être capable de conjuguer le progrès, l'avancée du progrès et sa redistribution, c'est marcher sur deux jambes. Soutenir l'activité et réduire les inégalités dans le pays. On voit bien que dans tous les pays où les inégalités ont augmenté, il y a une forme d'explosion qui se traduit par une explosion politique. On le voit en Amérique du Sud, on le voit dans d'autres pays de l'Union européenne. Et ça, ça doit être notre boussole extrêmement, et que je considère comme extrêmement important.
La parole aux auditeurs d'Inter. Bonjour Olivier et bienvenue sur notre antenne. Votre question à Valérie Rabault.
Bonjour Madame Rabault et bravo à France Inter pour ces émissions matinales. La question est simple, depuis 1980, 25 ans de socialisme, 25 ans de parti de centre droit, la même politique a été appliquée au niveau des dépenses de santé qui n'ont cessé de s'empiler, avec bien sûr, comme vous le notifiez, un petit peu une désescalade de la qualité. Maintenant, votre projet, c'est de repousser donc 6 milliards de budget supplémentaire de dette vers nos enfants. Ou bien avez-vous une véritable idée pour réduire les dépenses, en un sens, les améliorer?
Merci pour votre question, Olivier.
Alors, oui, merci Olivier pour sa question. Non, c'est pas de repousser ou de dire on met 6 milliards pour nos enfants. C'est qu'aujourd'hui, c'est Michel Rocard. Vous dites que la gauche et la droite, c'est à peu près pareil. Sauf que c'est quand même Michel Rocard qui avait créé la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui est de dire la dette sociale, il faut la rembourser. L'État a parfois de la dette qu'il ne rembourse pas, qu'il reporte d'échéance en échéance. Celle-ci, elle est remboursée. Il a créé un mécanisme extrêmement original qui n'existe dans aucun autre pays et qui consiste à avoir un mécanisme de remboursement qui est financé par la CSG et la CRDS. Bon, nous on dit on ne veut pas augmenter les taxes ni les impôts et donc cette CADES, elle est censée avoir une date de fin 2024, on la reporte de 2 ans, ça permet de résoudre l'urgence d'aujourd'hui. Donc c'est pas de dire je reporte pour nos enfants et je comme si on se moquait ou on se fichait un peu de ce qui va se passer pour eux, c'est de dire il y a une urgence, il faut y répondre, on ne veut pas d'augmentation de fiscalité ni de taxes, mais on utilise ce mécanisme qui est mis en place aujourd'hui et qui peut être très bien être décalé de 2 ans, ce qui n'aura pas une incidence massive, mais ce qui permettra de dégager 5 à 6 milliards d'euros pour financer les urgences à l'hôpital.
Il y a aussi, outre les questions qui concernent le modèle social, il y a aussi les questions de crise démocratique. C'est l'un des sujets qu'aborde l'ancien président François Hollande dans le livre qu'il vient de publier pour essayer de répondre justement à cette crise démocratique. Il plaide pour un vrai régime présidentiel, un mandat de 6 ans. Vous applaudissez ?
Alors, je n'ai pas lu son livre.
Pas encore ?
Je n'ai pas lu son livre.
Le lirez-vous ?
Peut-être. Mais je note que cette proposition figurait dans un livre que j'ai coécrit avec Karine Berger, Yann Gallu et Alexis Bachelet qui étaient députés en 2014 en disant nous proposions de supprimer le poste de Premier ministre. Bon, à l'époque, on nous avait taxé de faire de l'anti-valsisme. Non, c'était une réflexion sur les institutions. Donc, si le président Hollande souhaite reprendre la proposition que nous avions faite il y a 5 ans, bingo.
Quand vous dites peut-être, Valérie Rabault, on sent beaucoup de distance. C'est compliqué, toujours, l'héritage Hollande?
Non, mais c'est pas, il y a pas, non, c'est pas compliqué du tout. Moi, ce que je crois, c'est que, aujourd'hui, le Parti socialiste a un certain nombre d'idées que nous souhaitons porter. Je sais pas si elles sont reprises ou non dans le livre du président de la République. Mais ce que je crois, c'est qu'on ne peut pas refaire le match éternellement.
Voilà. Il faut se taire.
Non. Un ancien chef d'État a l'occasion, enfin en tout cas je crois, mais il peut aussi porter une parole qui est peut-être plus liée à son bilan, à ce qui a été fait.
Autrement dit, il faut en parler au passé et tourner la page.
Non, c'est pas parler au passé, parce que tout a des conséquences. Tout à l'heure, vous on parlait de la Syrie et de ce qui s'est passé ce week-end. Le président Hollande, en août 2013, avait proposé une action qui avait été refusée par les États-Unis et le Royaume-Uni. Et je pense qu'on aurait eu une configuration différente si elle avait pu être menée à ce moment-là.
Alors, le chef de l'État actuel, Emmanuel Macron, aujourd'hui, on revient quand même à ce sujet de laïcité et de communautarisme. Aujourd'hui, on a Emmanuel Macron qui va recevoir les représentants du Conseil français du culte musulman et on sait qu'il doit annoncer dans les prochaines semaines une batterie de mesures contre le communautarisme. Avons-nous un problème communautariste?
On a par endroit un non-respect, enfin en tout cas la loi de la République peut être perçue comme passant derrière certaines autres lois religieuses, par endroit. Mais vouloir en faire un débat national qui concernerait, qui stigmatiserait un certain nombre de populations, moi je suis pas d'accord. Et je suis choquée quand j'entends le ministre de l'Éducation Blanquer formuler un certain nombre de propositions, vous savez, demain soir. Il va plancher devant l'Assemblée nationale sur son budget de l'éducation nationale. Eh bien moi, je lui dis, Monsieur Blanquer, pour les sorties scolaires, pour l'accompagnement des enfants, augmenter le nombre d'accompagnants de l'éducation nationale, puisque les sorties scolaires relèvent de l'éducation nationale. Et vous n'aurez pas besoin de stigmatiser qui que ce soit.
On retourne au standard avec une question de Christian. Bonjour Christian et bienvenue sur Inter.
Oui, bonjour Christian, je suis de Montauban. J'avais une question sur la privatisation de l'aéroport de Paris. Valérie Rabault a réuni autour d'elle un certain nombre de députés de toutes tendances pour mettre en place un référendum. Aujourd'hui, sur Montauban, je n'ai rien vu, rien entendu sur des actions qu'elle pourrait mener pour mobiliser les Montalbanais et autres contre la privatisation de l'aéroport de Paris. Voilà, je veux savoir que fait Madame Rabault et que fait les personnes qui sont autour d'elle pour mobiliser les Français.
Et merci. Notamment chez vous, donc,
oui,
à Montauban.
Oui, chez moi, à Montauban.
Merci,
bonjour Christian.
Alors,
sur l'aéroport de Paris, d'abord, je voudrais signaler à Christian que Auty, petite commune du Tarn-et-Garonne, qui est la commune dont mon suppléant est maire, est la première commune de France avec 60% des électeurs qui ont signé. 60%. C'est une petite commune, mais le maire est allé les voir pour faire en sorte qu'ils puissent signer. Sur Montauban, nous avons fait, pour répondre à Christian, plusieurs marchés avec ma tablette, ce qui permet de signer directement en ligne sur le marché. Donc, je serai ravie de le croiser samedi prochain s'il le souhaite pour pouvoir une signature live. Et puis, on va faire un grand week-end ça va s'appeler en France la grande signature. Qui va permettre d'avoir plus de 1000 points de contact pour que, au mois de novembre, la date sera communiquée très prochainement pour que chacun puisse se saisir. C'est une opportunité constitutionnelle qui n'est jamais arrivée dans notre pays et c'est comme au rugby, les parlementaires ont gagné la première mi-temps, la deuxième mi-temps, elle appartient au peuple tout entier jusqu'au 12 mars 2020.
Alors on vous entend très remonter sur l'aéroport de Paris, mais la privatisation qui va arriver là beaucoup plus vite, qui est en route, c'est celle de la Française des Jeux. Ça va se passer en novembre.
Oui.
Là, c'est fait, il y a plus rien.
Alors.
Pour vous, c'est acceptable? C'est plus souhaitable?
Non, c'est pas plus souhaitable. Nous, on a bataillé dans l'hémicycle contre cette privatisation. Contre. Mais nous n'avons pas pu obtenir.
Bataille perdue.
Faut le dire comme ça, bataille perdue. Nous aurions aimé que la Française des Jeux fasse partie du référendum d'initiative partagée. Sauf qu'il vous aura pas échappé que pour pouvoir déclencher ce référendum, il fallait 185 signatures de parlementaires et que si nous mettions la Française des Jeux dedans, nous ne les obtenions pas, notamment de la part de la droite. Donc c'est pour ça que le référendum d'initiative partagée, tel qu'il existe aujourd'hui, ne porte que sur l'aéroport de Paris.
Et quand on entend que ça va être une bonne affaire, qu'en pense la députée Valérie
Rabault ? Non, mais alors, j'ai entendu sur votre antenne là une pub pour la privatisation. Je vous assure que jeudi, là qui arrive, on fait le débat sur les privatisations de l'État face au ministre. Je vais lui demander combien ça coûte, parce que là, il a de l'argent pour faire de la publicité pour la privatisation de la Française des Jeux. Tout d'un coup, il en a trouvé.
Vraiment amoureuse des chiffres et spécialiste des questions comptables. Parlons un peu de l'avenir et de l'avenir de votre camp. Est-ce que Bernard Cazeneuve serait l'homme qu'il faudrait pour mener les troupes socialistes vers les prochaines échéances électorales ?
Bernard Cazeneuve est un homme d'État qui prend du temps pour réfléchir, qui a cette sérénité que je trouve extrêmement importante pour être capable, enfin qui constitue un socle extrêmement important. La prochaine étape, c'est 2020. On a 50 000, un tout petit peu moins, mais 50 000 élus en France. C'est-à-dire que le Parti Socialiste fait partie de ceux qui ont la plus grande représentation sur les territoires. Évidemment, notre objectif, c'est de conserver ces élus et d'être en capacité de démontrer aussi aux Français que les réalisations qui ont été portées sur les territoires, ben, elles sont pour eux, elles constituent, je crois, elles sont un vrai bénéfice pour eux, pour leur vie quotidienne. Donc ça, c'est tout l'enjeu des municipales, et je ne vais pas vous mentir, il est crucial pour nous.
Et la campagne a commencé. Merci Valérie Rabault d'avoir répondu à nos questions et aux questions des auditeurs d'Inter.